en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, il faut transporter la philosophie dans la médecine et la médecine dans la philosophie. Cette maxime d'Hippocrate, médecin grec de l'époque antique, Anne Fagot-Largeau l'a fait sienne pour débuter sa leçon inaugurale au Collège de France. Car Anne Fagot-Largeau, à la carrière impressionnante, et nous le verrons tout au long de cet habit vert, est à la fois psychiatre et philosophe. Elle est spécialiste de l'éthique, de la méthodologie, de la recherche clinique. Anne Fagot-Largeau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie à Paris. Entre deux préparations de cours au Collège de France, vous prenez le temps de venir nous voir pour nous parler de vos travaux. Alors vous êtes non seulement, on l'aura compris, professeur au Collège de France où vous occupez la chaire de philosophie des sciences biologiques et médicales. Vous êtes également psychiatre, vous avez exercé pendant un certain temps à l'hôpital Henri Mondor à Paris et vous êtes également membre de l'Académie des sciences depuis 2002. Auparavant, vous étiez correspondante et cela depuis 1999. Avec vous, donc, nous allons pouvoir retracer votre carrière qui vous conduit aujourd'hui à une telle diversité de connaissances, à la fois scientifiques et littéraires. Dans cette émission, nous parlerons naturellement de vos travaux qui portent sur des thèmes d'histoire et de philosophie des sciences du vivant, abordé sous l'angle théorique et pratique. Mais auparavant, nous allons peut-être parler de votre parcours qui vous a mené jusqu'ici, aujourd'hui, Anne Fagot-Largeau. Alors, comment ça vous est venu à l'idée, tout simplement, d'en venir en fait au Collège de France? Je suppose que c'est tout un cursus sur plusieurs années.
C'est quelque chose qui était complètement imprévu.
Je suppose que vous aviez un niveau scolaire brillant.
J'ai un parcours un peu déconcertant, puisque je suis une littéraire qui a atterri à l'Académie des sciences. À l'époque où je faisais mes études secondaires, une fille faisait des lettres et un garçon faisait des sciences. Du moins, c'était la maxime que mon père appliquait. Et je suis donc entrée à l'École normale supérieure dans la filière littéraire.
Mais déjà, à la base, entrée à l'École normale supérieure, ce n'est pas tout le monde qui entre à l'ENS.
Quand on est jeune, on ne se rend pas compte.
Ça, c'est la modestie qui parle. Donc, en entrant à l'ENS, vous êtes plutôt dans la filière...
En entrant à l'ENS, j'étais quasi prédestinée à faire lettres classiques, puisque j'avais déjà grec, latin. Et j'ai décidé de faire philosophie, contre l'avis de mon père. Et à l'époque, pour devenir enseignant en philosophie, il fallait passer l'agrégation de philosophie, et cela requérait un certificat de sciences. Et j'ai choisi de faire mathématiques générales et physique, alors que l'école me conseillait sagement de faire un certificat facile comme anthropologie que tout le monde faisait. Et par chance, j'ai eu mon certificat de mathématiques.
Par chance, vous pensez, il devait quand même avoir beaucoup de travail.
J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu un très très bon prof.
Ah, effectivement, les professeurs, ça aide.
Oui, ça compte. Et après cette agrégation de philosophie, j'ai enseigné au lycée pendant 5 ans.
Alors, vous enseignez la philosophie?
La philosophie en classe terminale, au lycée de jeunes filles de Douai.
Vous en gardez un bon souvenir? Parce que vous avez le sourire
J'en garde un souvenir merveilleux. J'avais des élèves qui étaient délicieux, qui très travailleurs. C'était avant 1968.
Vous aviez raison de préciser.
Et ces gars du Nord qui étaient tellement désireux d'arriver à quelque chose en apprenant. C'était une très très bonne expérience.
Vous êtes resté combien de temps professeur en terminale en tant que professeur de philosophie?
4 ans à Douai et 1 an à Paris.
Et parallèlement, vous faisiez une thèse, je suppose, ou...
Pas encore. C'était difficile
à combiner.
À combiner. Et puis, j'avais souhaité faire une thèse quand j'étais à l'école normale supérieure, mais on m'avait refusé l'année de thèse, qui était très rarement attribuée aux filles à l'époque. Plus souvent aux garçons.
C'était plus une question de sexe.
J'ai appris après. Donc, n'ayant pas pu avoir une année après mon agrégation pour réfléchir à un sujet de thèse, commencer un petit peu une recherche, et tout de suite verser au lycée, non, j'ai pas tout de suite eu un projet de thèse. La première année d'enseignement au lycée, d'ailleurs, vous ne faites que ça. C'était le baby-boom arrivait derrière moi, j'avais des classes très très nombreuses. Ma première classe de philo, ils étaient 52 élèves.
Ah oui, quand on parle de classe surchargée avec une trentaine d'élèves, vous pouvez parler en connaissance de cause en ayant 50.
J'ai passé mes week-ends à corriger les copies, mais j'aimais bien. Et puis j'ai eu la chance que le professeur Gilbert Simondon a été nommé à la Sorbonne et il cherchait un assistant. Et on m'a téléphoné un jour à Douai en me demandant si j'accepterais d'être l'assistant de M. Simondon. Je ne le connaissais pas du tout, je n'avais pas lu ses livres. Il venait de soutenir une double thèse très très brillante. Donc j'ai commencé à avoir des cours complémentaires à la Sorbonne. Je prenais le train le matin, j'allais faire mes cours, je revenais le soir. Ouais. Puis, au bout de 2 ans, j'ai été détachée de l'enseignement secondaire. Et j'ai été une année assistant plein temps de Gilbert Simondon, ce qui a été très agréable. Alors, il était en principe mon directeur de recherche. On avait fait ensemble un projet pour une thèse que je pourrais faire.
Qui s'intitulait comment ?
Mais le projet était encore flou, il n'a jamais eu de vraie formulation. Et comme je devais enseigner la philosophie des sciences à des étudiants de Simondon qui étaient des étudiants de psychologie, j'ai commencé à me dire qu'en philosophie des sciences, je ne connaissais rien. Alors bien sûr, j'ai appris des tas de choses sur le structuralisme, toutes les modes de l'époque, la psychanalyse, etc. Et j'ai enseigné ça, mais au bout de l'année, j'ai dit à Simondon que je voulais apprendre la logique, parce que à l'époque, l'orthodoxie était que la philosophie des sciences, c'est la logique des sciences. C'était une idée qui venait de l'école de Vienne, et l'école de Vienne avait été largement exportée aux États-Unis à cause de la Seconde Guerre mondiale. Et j'avais entendu parler de M. Alfred Tarski, qui enseignait la logique à Berkeley et qui avait créé une école de logique des sciences.
Et c'est là que vous avez pris
Alors
la décision de partir.
J'ai posé ma candidature pour aller étudier à Berkeley.
Mais là, vous aviez quand même l'esprit aventurier, c'est-à-dire que de votre classe de terminale à Douai, vous faites un petit détour sur Paris avant de vous envoler pour Berkeley.
C'était d'autant plus aventureux que je ne savais pas l'anglais. À l'école, j'avais appris l'allemand, le grec et le latin.
Et pas l'anglais, malheureusement.
Et pas l'anglais. Alors, j'ai pris quelques cours avec l'école Berlitz. Et puis, Simondon était déconcerté par ce désir d'aller apprendre la logique.
Il pensait que vous alliez rester à ses côtés, certainement.
Non, c'est pas ça. Il m'a dit, pour une femme, avoir envie d'étudier la logique et les mathématiques, c'est bizarre.
Venant d'une personne comme lui, cette réflexion peut paraître d'autant plus,
mais finalement,
d'autant plus surprenante.
Oui, sur le coup, je ne l'ai pas très bien pris, mais
Je comprends.
Mais il a eu raison en fin de compte, puisque je suis revenue à la biologie et à la médecine, en réalité. Mais j'ai fait un grand détour par cette école de logique formelle qui était la préférence dominante à l'époque en philosophie des sciences.
Donc votre candidature pour en revenir à Berkeley a été acceptée ? Vous êtes partie ?
Non, justement, j'ai écrit une lettre en anglais au philosophe de Berkeley et j'ai reçu une charmante réponse de M. Craig, que je ne connaissais que parce qu'il avait... Je connaissais le lemme de Craig, il avait prouvé un lemme d'un théorème. Et il m'a répondu qu'il était navré de me dire que l'année prochaine, il serait en année sabbatique. Et il me conseillait de m'adresser plutôt à son collègue Patrick Soupis, qui enseignait à Stanford. Stanford, je n'avais jamais entendu parler. J'ai écrit, puisqu'il me donnait l'adresse de Patrick Soupis. Là aussi, j'ai reçu une réponse par retour du courrier. Venez.
Ah, je pensais que vous alliez dire l'inverse, justement. Vous savez bien raconter les histoires, parce que vous voyez, vous mettez le suspense. Donc, vous êtes venue à Stanford, finalement.
Donc, j'ai débarqué à Stanford en 1967 et j'ai vécu 68 à Stanford. Donc, j'ai vécu ça de loin, avec un étonnement considérable. Je suis rentrée en France en juillet 68. Et je retrouvais mes illustres collègues de la Sorbonne,
oui,
qui, à l'égard des étudiants en révolte, en grève, en occupation des lieux, etc., se comportaient comme des tapis. J'ai été très, très choquée.
Vous pensiez que vos collègues allaient réagir face à ce mouvement ? Qu'est-ce qui vous choquait ?
J'ai trouvé
Parce que vous deviez quand même sentir venir, quand même, en 67.
Le choc de cette révolution ou révolte, les enseignants se comportaient, pas tous, hein, mais avec une certaine lâcheté. Il y en a qui avaient déserté le terrain. Et j'ai su après que Simondon lui-même avait été très bouleversé par cette révolte et qu'il n'était plus le même ensuite.
Mmh.
Mais je ne l'ai pas revu pendant 4 ans, puisque j'ai étudié aux États-Unis, à Stanford, pendant 4 ans. Et
pendant
j'ai passé mon PhD là-bas, en philosophie des sciences, c'est-à-dire en logique des sciences.
Et oui, donc finalement, vous arrivez là-bas, vous ne connaissez pas un mot d'anglais, et finalement, vous passez.
Et pas non plus un mot de logique,
place.
Ni de probabilité. J'apprends.
Oui, mais malheureusement, il ne suffit pas que de vouloir apprendre. Il faut avoir certaines possibilités à la base. Vous êtes...
Alors, mon ambition, c'était que je voulais me rendre compte de ce que c'était que donner une explication scientifique. Et j'étais particulièrement intriguée par les explications causales. Qu'est-ce que c'est qu'une cause ? Et est-ce qu'une explication causale nécessite un appareil logique par derrière ? Dans le cours de mon travail là-bas, puisque je devais rédiger un mémoire pour le PhD. Ouais. Mon maître Patrick Soupis, mon directeur de recherche, m'a dit la grande mode, c'était les logiques modales. Hein. Et il se développait juste à ce moment-là des logiques causales, des logiques dites causales dans le cadre des logiques modales. Et Patrick Soupis m'a dit « Don't waste your time with model logic. Ne perds pas ton temps avec les logiques modales. Fais des probabilités. » C'est ce que j'ai fait et je m'en suis toujours félicitée. Oui, c'était la bonne voie. Et ce que les médecins utilisent et ce que les biologistes utilisent, c'est les probabilités, les statistiques. C'est très rarement la logique. La logique est beaucoup trop simple, si j'ose dire.
Mais alors ça, c'est pour la partie philosophie. Vous avez
Jusque-là, je suis toujours philosophe.
Oui. Mais vous êtes également docteur en médecine.
Non, pas encore. Pas encore, pas du tout. L'année où j'ai enseigné avec Simondon à la Sorbonne, j'ai flirté un peu avec la médecine. J'ai fait l'année préparatoire de médecine. J'allais à la fac de sciences, je faisais les travaux dirigés, les travaux pratiques, tout ça. Et j'ai eu ça s'appelait le PCEM à l'époque. Parce qu'il me semblait que pour faire de la psychologie, il fallait savoir un peu les soubassements biologiques. Mais je n'avais pas de projet de... Mon projet, c'était d'aller aux États-Unis apprendre la logique. J'étais quand même encore très théoricienne. Hein. Et c'est quand je suis rentrée des États-Unis, un peu accidentellement, que j'ai commencé à faire réellement de la médecine. J'aurais pu rester aux États-Unis après mon PhD.
Vous auriez pu enseigner là-bas, par exemple ?
Oui. C'est ce que faisaient mes camarades étudiants à Stanford. Et j'aimais beaucoup la Californie. J'y ai laissé des amis, j'en ai encore.
Vous êtes quand même revenu.
Mais j'ai reçu là-bas un message de Georges Canguilhem. Je n'ai jamais su comment il m'avait retrouvé là-bas. Me disant, il va y avoir, après 68, plusieurs universités se sont ouvertes et on cherchait des enseignants. Et il y avait une foule de postes, alors que ce n'est plus le cas pour nos étudiants aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
Et j'ai reçu donc ce message de Canguilhem. Il va y avoir un poste d'assistant à l'université Paris 12, Créteil. Posez votre candidature.
On vous écrit pour vous informer de...
Il ne m'a pas écrit. Il a téléphoné à quelqu'un qui me connaissait, qui m'a écrit que... Et c'était très urgent. Il fallait faire ça dans les 8-15 jours. J'ai posé une candidature à l'aveuglette. Et j'ai été recrutée avant même d'être entrée des États-Unis, en somme, comme assistant à l'université Paris 12, Créteil, qui était une université complètement neuve, qui sortait au milieu d'un chantier pas possible. On marchait dans la boue pour arriver à l'université. Et lorsque j'ai commencé à enseigner à cette université, à la fac de lettres, dans un département de philosophie tout petit, on était un professeur, un maître assistant et moi.
Ah c'est oui, effectivement, tout. Oui.
Avec assez peu d'étudiants, peut-être en première année une vingtaine d'étudiants. Et c'était la seconde année que l'université fonctionnait, pour la première fois avec des titulaires. Et donc on avait une première année, une seconde année, très très peu d'étudiants.
C'est bien, vous avez participé au début de Paris 12, en fait.
Au début de Paris 12, oui. Et c'était des débuts que j'ai trouvé navrant, parce que je venais d'une université américaine où les étudiants étaient très motivés pour travailler, où on respectait le travail, et où même quand on avait fait la grève, on avait fait la grève à propos de la guerre au Cambodge, etc. Enfin, il y avait eu en 68 déjà, il y avait eu des événements assez durs à Stanford, mais à cette occasion-là, les étudiants avaient protégé les locaux, protégé l'université. Alors que les étudiants de Créteil, qui n'avaient pas vécu 68 comme étudiants, puisque je commençais en 71, là, ils ne rêvaient que d'une chose, c'était d'aller faire le coup de poing avec la police. Ils voulaient faire leur révolution à eux, et pendant 2 ou 3 ans, on a été dans des grèves sporadiques, des arrêts des cours.
Climat de tension.
Oui, oui, oui. Des grèves surprises. Assemblée générale surprise, etc. Dans une université encore pas très bien construite, où les portes des WC ne fermaient pas, le chauffage s'arrêtait à 4 heures de l'après-midi. Enfin,
c'était les débuts de
c'était
Paris 12.
C'était vraiment misérable. Et j'ai essayé, la première année, naïvement, j'ai essayé de parler à mes étudiants de la causalité, puisque j'avais commencé à réfléchir sur les causes, l'explication causale. Et il y a un étudiant qui a levé le doigt, qui m'a dit « Madame, ça n'a aucun intérêt, et d'ailleurs, vous n'avez encore pas parlé de la rupture épistémologique. » La rupture épistémologique, je ne savais pas ce que c'était. C'était une des grandes modes françaises de l'époque. Donc, mes débuts à Créteil ont été un petit peu chaotiques. Et je voyais à l'horizon cette belle fac de médecine qui était avec l'hôpital Henri Mondor tout en hauteur. Ça se voyait de loin. C'était à 1 kilomètre à peu près de la fac.
Et vous avez été appelée. Vous êtes sentie appelée par la fac de médecine.
Non, c'est pas ça. Mais j'ai voulu aller écouter des cours de biologie ou de quelque chose pour me sortir un peu de cette ambiance qui régnait à la fac de lettres, qui était tristounette quand même. On m'a dit à la fac de médecine que je ne pouvais pas suivre des cours sans prendre une carte d'étudiant, parce qu'on vérifiait les cartes d'étudiant.
D'accord.
Alors j'ai pris une carte d'étudiant et comme ça j'ai fait ma médecine.
Et c'est original que pour vous détendre, vous y alliez encore dans une autre fac finalement. Vous n'allez pas avoir une activité, je ne sais pas moi, faire du parachutisme, faire de l'aviron, quelque chose qui va vraiment vous dépenser. Vous allez dans une autre fac à côté.
Ouais, j'étais à Créteil et Créteil c'était quand même le désert.
Il n'y avait que les facs pour vous distraire.
Il y avait, à proximité de l'université, il n'y avait même pas de librairie, même pas de papeterie. On ne pouvait pas acheter un bloc de papier. Donc, j'ai pris ce qu'il y avait.
Donc, vous avez pris, pour revenir à la faculté de médecine, vous avez pris votre carte d'étudiant ?
Oui. Et quand on prend sa carte d'étudiant, on reçoit les convocations aux examens. Et j'ai passé l'examen et je me suis rendu compte que la médecine, quand on a un peu d'expérience, c'est vraiment facile.
Alors, je vous propose de marquer une courte pause, Anne Fagolargeau, et on se retrouve tout de suite après pour parler de ces années médecine. À tout de suite. Suite de notre émission En habit vert en compagnie d'Anne Fagolargeau. Anne Fagolargeau, nous nous sommes quittés à la fac de médecine de Créteil où vous allez parallèlement en fait à vos études de philosophie où vous êtes assistante en philo à Créteil. Vous allez donc également cette fois-ci prendre des cours à la fac de médecine de Créteil avec, vous me disiez pendant la pause, un décalage de 10 ans par rapport aux étudiants à la fac de médecine là-bas.
J'ai trouvé ça très intéressant, les études de médecine. Je faisais ça, en somme, comme un hobby.
Si tous les étudiants en médecine pouvaient dire ça, que c'était un hobby.
La médecine, c'est facile.
Là, vous mettez beaucoup de monde à dos, vous savez. Vous êtes volontairement provocatrice.
Il suffit d'apprendre. Mais comme j'avais fait de la philosophie des sciences, je me posais des tas de questions. J'ai fait un stage, par exemple, en anatomopathologie, où on faisait les autopsies, l'épreuve initiatique de l'étudiant en médecine. Et là, on essayait de trouver la cause de la mort. Et j'ai essayé de comprendre par quel raisonnement les médecins arrivaient à poser que la cause de la mort, c'est ça, ou plutôt ça. Comment ils essayaient de trouver le processus causal qui avait mené à la mort.
Toujours cette causalité hein, qui est cette
oui.
question qui vous intéresse.
Une autre chose qui m'a beaucoup intriguée, c'est que la médecine était encore enseignée du haut de la chaire, des grands cours ex cathedra. C'était la fin d'une époque, en réalité. Les années suivantes, les étudiants n'ont plus que des travaux dirigés. Mais là, il y avait encore des grands cours en grand amphi. Et les notions médicales étaient enseignées avec beaucoup d'autorité.
Oui.
J'avais remarqué que d'une année sur l'autre, les doctrines changeaient. Ça changeait très vite. Ce qui était vrai une année n'était plus vrai 2 ans après.
Quand vous parlez de doctrine, c'est-à-dire
les connaissances médicales, même le vocabulaire changeait. Il apparaissait des maladies qu'on n'avait pas connues avant. Les maladies hématologiques, par exemple, ont beaucoup changé de dénomination pendant que je faisais mes études. Et je me disais, mais d'où viennent ces changements? Comment s'acquièrent, comment se construisent les connaissances médicales qu'on nous enseigne, comme si elles avaient toujours été ainsi, mais
alors qu'elles sont
je les voyais changer et elles sont toujours en remaniement. Et je me suis donc interrogée sur la recherche en médecine, où elle se faisait, comment elle se faisait, s'il y avait de la recherche clinique. Quand je faisais mes études de médecine, c'était dans les années 70, il n'y avait en France aucune loi. La loi Huriet est intervenue beaucoup plus tard, la loi qui encadre la recherche médicale.
Sur l'éthique ?
Oui, mais la loi a essayé de rendre, pendant que je faisais mes études de médecine, l'idée de faire de la recherche sur des malades à l'hôpital était une idée condamnable et condamnée qui pouvait mener les médecins en prison. La loi ne l'autorisait pas. Et ce n'est que bien des années plus tard que la loi Huriet a rendu possible ou permissible, à certaines conditions, en suivant certaines règles, de faire de la recherche à découvert. Donc la recherche se faisait de façon semi-clandestine, en fait, dans l'hôpital Henri Mondor où j'ai fait mes stages.
Excusez-moi, j'ai peut-être mal compris. Qu'est-ce qui était condamnable dans vos recherches ?
De pratiquer des actes de recherche, un simple prélèvement de sang, par exemple, sur une personne, soit sans lui dire que ce n'était pas du tout pour la soigner ou pour son diagnostic ou pour
d'accord,
son bien,
c'était
pour
la recherche.
Hein, et en ayant peur que si ça se découvrait, s'il y avait un accident suite à ça, par exemple, le médecin et les pouvoirs publics puissent condamner de tels agissements. Hein. Officiellement, ça n'existait pas. Il y avait des textes de l'Ordre des médecins qui montraient que ça existait et qu'il faudrait le faire exister officiellement et l'encadrer.
Et à cette époque-là, le Conseil consultatif national d'éthique n'existait pas.
Mais non, il a existé à partir de 83.
Voilà, 83.
Et je faisais mes études avant ça. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça parce que Paul Ricoeur m'a demandé de rédiger un article qu'il n'avait pas envie de rédiger lui-même et qu'on lui avait demandé pour une revue internationale de philosophie des sciences. Et c'était un article qui s'intitulait « Science et éthique ». J'ai été très surprise de ce titre, de ce sujet. Ça ne me paraissait pas un sujet, moi, « Science et éthique » à l'époque. Et je me suis demandé pourquoi Ricoeur trouvait ce sujet tout naturel. Et ce n'est qu'en travaillant la littérature de ce sujet que je me suis rendu compte qu'aux États-Unis, depuis le milieu des années 60, hein, Ricoeur a dû me demander ça en 75 ou quelque chose comme ça, et depuis une dizaine d'années aux États-Unis, il commençait à y avoir une littérature très importante sur les rapports entre la science et l'éthique, les pratiques scientifiques
jusqu'où on peut aller,
douteuses, contestables, les falsifications scientifiques et les abus que certains médecins-chercheurs avaient commis sur des malades au nom de la recherche.
Et les falsifications scientifiques, c'était quoi par exemple ?
J'ai surtout eu connaissance à ce moment-là de choses qui concernaient la médecine et c'était plus grave que des falsifications. En fait, c'était des abus commis sur des malades. Par exemple, des essais de transfert de tissus cancéreux sur des personnes saines, âgées, dans des services de gérontologie.
Gériatrie.
Oui. Pour voir si les tissus cancéreux étaient rejetés et s'il y avait une immunité qui se développait contre le cancer. Parce que l'hypothèse était dans l'air, elle était séduisante, hein, qu'il y avait peut-être une défense naturelle de l'organisme contre le cancer. Mais les médecins avaient fait ça sans prévenir les gens sur qui ils avaient agi. Hein. Et il y a eu aussi une expérimentation dans un hôpital d'enfants où on avait inoculé à des enfants, sans rien dire, ni aux enfants, ni aux familles, ni rien, un virus de l'hépatite. Donc j'ai pris conscience que la recherche médicale était un problème, en même temps qu'il y avait toute une méthodologie de la recherche biomédicale qui s'était constituée et dont on parlait encore pas du tout en France, dans l'enseignement que j'ai reçu en médecine, il y a pas un mot. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à des questions d'éthique et que j'ai vu un rapport entre les questions de philosophie des sciences et les questions de philosophie morale.
En fait, on perçoit très facilement les prouesses de la technologie, des avancées technologiques qui nous permettent de guérir toujours plus. On perçoit mal les excès, là en l'occurrence que vous venez de nous expliquer. Les excès dans la recherche, on va dire.
Et surtout, on perçoit mal qu'il est nécessaire avant de pratiquer un traitement médical dans la routine, qu'il est nécessaire d'avoir essayé ce traitement avec beaucoup de précautions et d'une façon progressive, bien encadrée, en prévenant les gens de ce qu'on fait sur eux. Hein. Ce sont des mœurs qui sont entrées très lentement dans la pratique en France, dans les années où je découvrais moi-même la médecine. Et je pense que j'ai été plus sensible à ces aspects-là du fait que Ricoeur m'ait demandé cet article, d'une part.
Oui.
Ce qui m'a fait lire la littérature, et puis du fait que, ayant une formation en philosophie des sciences, je me posais les questions.
En fait, qui vous a demandé de rédiger cet article sur science et éthique, c'était intéressé, c'était justement pour vous aiguiller sur cette piste-là?
Je ne sais
Paul
pas.
Ricoeur.
Je ne sais pas, mais je pense qu'il avait su que je faisais ma médecine, en parallèle, en gagnant ma vie avec la philosophie.
Malheureusement, on est obligé d'avancer un peu vite dans le temps.
Mmh.
Maintenant, vos travaux actuels, puisque vous êtes professeur au Collège de France maintenant depuis 2001. Donc vos cours portent sur les sciences, la philosophie des sciences et sur des angles bien particuliers qui, je suppose, sont en rapport avec vos études dont vous venez nous parler.
Alors, entre-temps, j'ai fait autre chose quand même. Je n'ai pas sauté directement de Créteil-Banlieue au Collège de France.
Au Collège de France, vous avez quelques étapes.
J'ai fait une thèse de doctorat d'État, Ancien Régime, sur l'explication causale. Et je suis devenue professeure à Nanterre, où j'ai succédé à Jacques Merleau-Ponty, qui finalement a dirigé cette thèse sur l'explication causale. Puis, l'année où mon mari est mort, je suis passée de Nanterre à Paris 1, à l'université Paris 1. Et c'est là qu'un jour, j'ai reçu un coup de téléphone où on me disait qu'on pensait à moi pour le Collège de France. Ça a été la surprise totale.
Comment ça se passe pour être au Collège de France? Ce sont des personnes qui vous inscrivent sur un poste à pourvoir ou c'est à vous de faire la démarche? Est-ce que ça se passe comme
non,
à l'académie
non,
ou en fait?
On ne pose pas sa candidature au Collège de France. C'est une cooptation. Et maintenant, je connais la procédure par l'autre bout. Je sais qu'on cherche à discerner les disciplines qui manquent dans les universités ou qui sont en train d'émerger. Par exemple, récemment, nous avions identifié comme discipline émergente la climatologie et nous avons cherché quelqu'un qui pourrait venir enseigner la climatologie au Collège de France et qui soit déjà dans le mouvement international de recherche actuel sur la climatologie.
Anne Fagot-Largeau, maintenant vous connaissez maintenant effectivement le procédé inverse, c'est-à-dire que vous êtes passée du côté du Collège de France, donc vous savez comment on fait pour choisir les professeurs. Alors effectivement, avant d'être professeur au Collège de France, comme vous l'expliquiez, vous êtes donc passée un peu à Paris 1. Vous aviez donc des classes d'étudiants.
Oui, des étudiants normaux.
Normaux.
Normaux qui préparaient à l'époque un DEA, un doctorat, ou bien qui passaient l'agrégation de philosophie. Oui.
Vous enseignez aussi la philosophie des sciences?
Oui, j'ai toujours enseigné la philosophie des sciences de préférence, sauf à Créteil, où j'enseignais beaucoup plus large, parce que les assistants, ils font un peu de tout. Ce que je considère comme ma meilleure expérience dans l'enseignement de la philosophie des sciences, c'est que dès Nanterre, comme j'avais eu la chance d'être recrutée à l'IUF, Institut Universitaire de France, ce qui donnait à Nanterre un poste supplémentaire dans ma discipline, dans la philosophie des sciences. Donc le département en a élu un autre. Et puis on en a eu un troisième qui est venu par une autre voie. À Troyes, nous avons monté un séminaire interuniversitaire de philosophie des sciences. Et on a mené ce séminaire pendant 10 ans, finalement à l'École normale supérieure. Enfin, on l'a eu dans plusieurs endroits différents de la région parisienne. Et à ce séminaire, à Troyes, de façon très interdisciplinaire, parce qu'on a invité beaucoup de scientifiques à travailler avec nous, on a vraiment, je pense, mis au point une sorte de ligne en philosophie des sciences qui divergeait un peu d'avec la ligne d'enseignement précédente. C'était d'ailleurs plus une philosophie des sciences qui était une logique des sciences. C'était une autre manière de faire. Et ça a abouti à un livre. On a fini par publier un livre.
En 2002.
En 2002.
En 2002, qui s'appelle La philosophie des sciences.
Qui s'appelle Philosophie des sciences.
Que vous avez rédigé avec Daniel Handler et Bertrand Saint-Cernin.
Voilà.
Mais vous aviez rédigé un autre livre, il y a de cela quelques années maintenant.
Oui, j'ai publié moi-même des choses. Mais j'ai un très bon souvenir de cette expérience-là et elle me manque encore d'une certaine manière.
Ah, hein. Il y a déjà 2 volumes. Vous aimeriez en rédiger un 3e, 2 volumes?
Non, c'est pas ça. Mais l'écriture du livre a été une épreuve difficile. Mais l'enseignement était un vrai plaisir. On était toujours tous les trois ensemble, on discutait ensemble. On avait des points de vue très différents. On se complétait bien. Et les étudiants qui nous ont suivis dans cette expérience discutaient aussi, participaient beaucoup. Nous continuons de les voir. Enfin, c'était vraiment un très bon moment. Et quand je suis arrivée au Collège de France, avec ce bagage, j'ai pu démarrer un enseignement qui tenait compte de tout ce que j'avais appris dans ce travail à Troyes.
Juste avant de revenir effectivement sur le Collège de France, peut-être plus en détail, Anne Fagot-Largeau, quand je vous ai présenté au début de cette émission, j'ai dit que vous étiez également psychiatre et que vous avez exercé à l'hôpital Henri Mondor. Est-ce que l'on pourrait dire 2 mots sur cette spécificité ?
En 2 mots, je suis maître assistant à Créteil, professeur à Nanterre, professeur à Paris 1, en philosophie des sciences. Mais tous les lundis, je fais les urgences psychiatriques à l'hôpital Henri Mondor. C'est mon domaine privé.
C'est-à-dire
par rapport à mes collègues philosophes. Je consacre tous mes lundis et toute la journée du lundi à faire de la médecine.
Parce que c'est une ouverture supplémentaire pour vous ou c'est simplement le rapport aux patients ou parce que vous pouvez développer une réflexion à travers cet autre métier qu'est la psychiatrie?
C'est parce que, d'une part, je pense que ça ne veut rien dire d'être médecin si on n'exerce pas parce qu'on a besoin d'une formation continue. Sinon, on est très très vite largué. Les connaissances changeant très vite. Et les pratiques aussi changeant très vite. Et d'autre part, le contact avec les malades et avec les collègues des urgences et avec les collègues du service de psychiatrie était pour moi très précieux. C'était un travail en équipe auquel j'étais très attachée. Et je garde des liens avec les psychiatres de Créteil et avec des médecins des urgences de Créteil aussi.
Donc ça, ce sont des fonctions qui se sont arrêtées en 2003.
C'est ça, c'est la 3e année que je ne le fais pas et ça me manque.
Et ça vous manque.
Ouais.
Et donc en 2001, donc pendant 2-3 années, vous exercez également la fonction de professeur au Collège de France. Où là, donc, vous avez
mes collègues du Collège de France m'ont accepté comme médecin pour une petite part et j'ai continué en entrant au collège à faire mes lundis à l'hôpital Henri Mondor. Simplement, à ce moment-là, les gens de l'hôpital Henri Mondor m'ont repéré. Je passais complètement inaperçu, mais là, un prof du Collège de France qui fonctionnait aux urgences.
C'est beaucoup plus original.
Ça s'est vu, oui. Oh, pas beaucoup, les malades n'en savaient rien, mais la relation avec les collègues était un petit peu différente.
Alors, dans vos cours au Collège de France, c'est vous qui décidez des thèmes que vous abordez pendant toute une année? Comment ça se déroule? Là, cette année, c'est sur l'ontologie, j'ai vu l'avenir.
Au Collège de France, on est complètement libre, dans les limites de l'intitulé de sa chaire, évidemment, de faire ce qu'on veut, d'enseigner ce qu'on veut. On est censé enseigner la recherche en train de se faire et on ne doit pas se répéter. On ne peut pas faire 2 fois le même cours. C'est les seules règles. Et on fait un cours et un séminaire. Et pour le schéma de mon cours, j'ai choisi de commencer par des questions d'épistémologie parce que c'est là où le chemin est le mieux balisé. Donc je me suis demandé qu'est-ce que découvrir dans les sciences de la vie et de la santé. Puis la seconde année, qu'est-ce que prouver la validité de ce qu'on a découvert. Et la troisième année, qu'est-ce qu'expliquer ? Et en particulier, qu'est-ce que c'est qu'une explication causale ?
Et on revient à notre causalité.
Voilà. Puis, je me suis orientée parce que je vous ai dit que dans le courant de mes études de médecine, j'avais progressivement découvert les problèmes d'éthique. Et puis j'avais l'expérience de 8 ans au Comité national d'éthique.
Voilà, effectivement, vous êtes resté quelques années au CCNE.
J'ai abordé la question de la manière dont les sciences de la vie, et en particulier au 19e siècle la biologie, puis au 20e siècle la médecine, quand elle a commencé à être une médecine qui remodèle les gens, qui fait de la fécondation in vitro, des choses comme ça. Je me suis demandé quelle influence ça avait eu sur la conception de l'être humain. Donc j'ai fait un cours d'anthropologie biomédicale pendant 3 ans, jusqu'à l'année dernière incluse. La troisième année, je l'ai faite à Grenoble d'ailleurs. Je l'ai délocalisée, puisque le collège nous encourage à délocaliser une fois de temps en temps. Et maintenant, j'arrive à quelque chose de plus fondamentalement philosophique. C'est-à-dire, quand on admet que les connaissances acquises en biologie de l'évolution par exemple, et les connaissances acquises en médecine, par exemple ce qu'on espère des traitements sur les cellules souches,
oui.
Quand on a compris que tout ça implique qu'on peut intervenir, remodeler la nature et donc avoir une influence sur le cours du monde, on se dit que il faut réfléchir à ce que c'est que le devenir.
L'ontologie du devenir.
Voilà, j'ai donc annoncé un titre un peu risqué, Ontologie du devenir, et je viens de terminer ma première série de cours sur ce thème.
Voilà, pour 2006-2007, donc Ontologie du devenir. Oui. Une dernière question avant de terminer cette émission, puisque nous arrivons à terme. Ces cours sont accessibles à tous, ou au contraire, est-ce qu'il faut déjà quand même avoir des connaissances?
La règle du Collège de France, c'est que les cours sont ouverts à tout le monde, gratuitement, librement. Vous devez présenter la recherche telle qu'elle est en train de se faire, en expliquant d'une façon suffisamment simple et claire pour que tout le monde puisse comprendre.
Cependant,
c'est un défi
que
j'essaye de relever.
Oui. C'est un défi que vous essayez de relever. Et puis, dans votre actualité, on peut noter que pour le mois de juin, il y a donc une conférence que vous allez donner toujours au Collège de France, avec notamment Stanislas Dehaene.
Alors, ce n'est pas une conférence, c'est une journée d'études.
C'est une journée d'études.
Un petit symposium avec des invités étrangers et des invités français, où on va aborder la question des méthodes de recherche en psychiatrie. J'ai conservé des liens étroits, je vous ai dit, avec mes collègues de Créteil. Donc Marion Le Boyer et Franck Bellivier vont co-organiser ça avec Stanislas Dehaene et moi.
Donc ça, c'est prévu pour juin 2007.
C'est le 1er juin, toute la journée.
1er juin 2007.
Et l'idée directrice que nous avons pour objectif d'illustrer au cours de cette journée d'études, non seulement des chercheurs chevronnés, mais des jeunes chercheurs aussi vont exposer leurs travaux, c'est qu'il y a actuellement en psychiatrie, à travers des travaux très fondamentaux, des signes que la classification des maladies mentales en entités très distinctes, comme la schizophrénie, la maladie maniaco-dépressive, l'autisme, etc., cette classification est un peu chahutée ou bouleversée par la découverte que certains symptômes qu'on peut attribuer à des facteurs de prédisposition génétique ou qu'on peut attribuer à des événements dans le cerveau qui sont observables, hein, certains symptômes se retrouvent les mêmes, descriptibles de la même façon, dans diverses pathologies qu'on considère comme complètement différentes. Donc on a appelé ça les symptômes transnosologiques. Les éléments transnosologiques, et ça peut renouveler à terme la classification.
Eh bien, merci Anne Chagoulargeot, c'est sur ces derniers mots que nous allons nous quitter. Donc merci de nous avoir rendu visite, vous allez repartir peut-être au Collège de France pour préparer cette deuxième session de cours que vous donnez. Je rappelle que vous êtes donc professeur de philosophie des sciences de la vie et également académicienne ici à l'Académie des sciences. Merci donc de nous avoir rendu visite. J'invite nos auditeurs à aller faire un tour et sur le site de l'Académie des sciences pour voir plus en détail votre fiche biographique, mais également je les incite à aller faire un tour sur le site du Collège de France et les inviter bien sûr à assister à vos cours. Merci beaucoup et puis
merci
à bientôt
à
pour une nouvelle émission. Merci beaucoup. Au revoir.